Cantonal 2011, les 20 et 27 mars prochains, on élit une partie des conseillers généraux du Pas-de-Calais et on vote dans beaucoup de cantons à Arras et aux alentours. Un petit rappel d'abord sur le conseil général qui a surtout un rôle d'action sociale. L'aide sociale, c'est 50% du budget, les hôpitaux, les crèches, l'information des travailleurs sociaux, l'aide aux personnes âgées, etc. Le conseil général a aussi en charge les routes départementales, les bâtiments des collèges, le transport scolaire, puis il y a aussi une action dans le logement, l'emploi, le tourisme, le sport et les loisirs. Le scrutin en lui-même, c'est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours, donc on vote non pas pour une liste, mais pour un candidat et son suppléant, ça doit être un homme et une femme. Au premier tour est élu directement celui ou celle qui obtient la majorité, donc 50% des suffrages exprimés plus une voix, à condition d'obtenir au moins 25% du nombre d'inscrits. S'il n'y a pas d'élu au premier tour, passe au second tour les candidats qui obtiennent au moins 12,5% du nombre d'inscrits. Donc avant, c'était 10%, mais une réforme est passée d'ailleurs discrètement au mois de décembre dernier. Donc 12,5% du nombre d'inscrits dans des élections peu médiatisées, des élections où l'on craint une très forte abstention. Ça veut dire qu'il faut avoir une vingtaine de pourcents de suffrages exprimés pour passer au second tour. Pas facile. Donc voilà pour cette présentation sommaire de ce scrutin. Un scrutin qui a ceci de particulier cette année que les conseillers généraux qu'on élira seront peut-être les derniers. La réforme des collectivités territoriales est annoncée et peut-être dans 3 ans, on élira des conseillers territoriaux. Alors justement, cette réforme, on va en parler avec Paul Masson, formateur d'adultes, militant de l'éducation populaire, membre d'Attaque et de Culture et Liberté, et il est au micro de Bernard, Boris, Benjamin et Nico.
La réforme des collectivités repose le problème du territoire. Les territoires, c'est quelque chose de vivant. Les populations se déplacent et à un moment, le découpage d'un territoire peut apparaître inadapté. Je prendrai qu'un exemple. J'ai habité un certain nombre d'années à Saint-Laurent-Saint-Nicolas dans les grandes résidences. Quand on a construit les grandes résidences, il y a eu autant de populations qui sont arrivées qu'il y avait de populations sur les communes de Saint-Laurent et de Saint-Nicolas. Le territoire ne se pose plus du tout pareil de ce fait-là. Les territoires sont quelque chose de vivant. Par contre, le découpage politique, la décision de découper les territoires de telle ou telle manière, c'est pas quelque chose de technique, c'est pas quelque chose qui serait lié à ben, y a un peu de population qui a bougé. Ça correspond à des choix qui s'appuient sur des forces politiques. En gros, si on regarde le premier grand redécoupage du territoire français, c'est en 1789, c'est au moment de la Révolution. Jusqu'à la Révolution, le territoire était pensé autour des provinces qui avaient été pensées en fonction des nobles qui avaient réussi progressivement à récupérer un bout de territoire. Et le territoire était pensé en référence au système qui était né au Moyen-Âge. La Révolution arrive, c'est plus les forces des seigneurs qui détiennent le pouvoir. Et conclusion, les nouvelles forces qui se développent autour de la République vont repenser le territoire pour leurs propres intérêts. Si on voulait favoriser la République à ce moment-là, eh ben il fallait unifier le territoire et donner au pouvoir central bien plus de force pour que les seigneurs locaux ne cherchent pas à regagner là-dessus. C'est à ce moment-là qu'on a un premier redécoupage du territoire très très important qui repose sur l'idée la République est une et indivisible, donc le territoire, c'est la France. À ce moment-là, se met en place les départements sur une base économique qui n'a rien à voir avec maintenant. L'idée du département, tel qu'il a été pensé, c'était de faire en sorte que n'importe quel administré puisse se rendre au chef-lieu de département en une journée à cheval. Que le département, comme unité de mesure du territoire soit pas forcément pertinent, ça se comprend. Quand il a été pensé dans un autre contexte. Donc on va avoir cette première grande réforme qui a pour but de centraliser la France pour se débarrasser de l'ancien régime et qui a pour but de favoriser tout ce qui va être le développement de l'industrie et de la bourgeoisie en France. La manière dont c'était pensé, c'est pensé du centre et au niveau du département, celui qui commande, c'est le préfet, c'est le représentant de l'État. Ce n'est pas les élus locaux qui commandent, c'est le représentant de l'État qui commande. Il va falloir attendre 1982-83, ce qu'on a appelé les lois de fer, pour que cette restructuration du territoire qui datait de la Révolution soit repensée. Par rapport à l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y a eu un double souci. Un souci d'une part de se rapprocher des citoyens, et puis il y avait déjà, au niveau économique, l'idée que le territoire pensé par la Révolution n'était pas forcément le plus pertinent, que le département n'était pas forcément l'unité territoriale la mieux adaptée, puisqu'il se met en place à ce moment-là la région. Et c'est à ce moment-là qu'au niveau démocratie, aussi, c'est un souci de la gauche à ce moment-là, de faire en sorte que l'exécutif de la région, le président du conseil régional et le président du conseil général et le maire, ne soient plus dépendants du préfet, mais soient complètement autonomes, ce qui existe encore maintenant. Actuellement, le président du conseil général doit informer le préfet de ce qu'il fait, mais le préfet n'a pas d'ordre à donner au président du conseil général. Et il ne peut pas empêcher le président du conseil général de faire ce qu'il veut. Il n'a qu'une chose qu'il peut faire, c'est de contrôler que le président ne fait pas quelque chose de hors la loi. Et s'il fait quelque chose de hors la loi, le préfet porte plainte. Et c'est la justice qui tranche. Vous voyez, on a vraiment une séparation des pouvoirs, mais il faut attendre les lois de 82-83, les lois de décentralisation, Gaston Defer. Depuis, on a tout le temps des évolutions, mais on n'a pas eu d'autres réformes importantes. I'd like to have a democracy.
En quoi le découpage du territoire est une réponse aux besoins collectifs, c'est-à-dire à l'intérêt général?
Ce qui est posé, c'est la question de l'intérêt général et comment se fait l'intérêt général. À la limite, n'importe quel élu va faire valoir ses décisions comme au nom de l'intérêt général. Et on peut même presque dire qu'il va y avoir des compétitions. Le responsable de l'exécutif national se revendique comme le représentant de l'intérêt général. En plus, avec le président qu'on a, et ce qu'on sait, la manière dont ça se passe, on est bien placé pour savoir que le président ne représente pas l'intérêt général, l'intérêt de tout le monde. Mais tous les échelons, on va avoir les élus qui vont se revendiquer de l'intérêt général. Et avec les lois de décentralisation, on va avoir une sorte de compétition de pouvoir entre l'État et les collectivités territoriales qui va être renforcée dans le fait que l'État central est aux mains de la droite et que les collectivités territoriales sont plutôt aux mains de la gauche. Donc il y a une sorte de compétition entre les territoires, chaque élu se prévalant de l'intérêt général. Dans les lois de décentralisation, et dans cette proposition de loi, ce qui est les intérêts des forces dominantes de l'État de l'UMP ne sont pas étrangères à ça. La réforme des collectivités territoriales va plutôt avoir tendance à renforcer le pouvoir central et le pouvoir central n'a rien à y perdre. Par contre, les collectivités, au niveau politicien, l'autre élément de l'intérêt général, c'est qu'on va retrouver aussi cette compétition au nom de l'intérêt général entre l'État et les collectivités. On va le retrouver de la même manière entre les élus et les représentants des associations. L'élu va toujours vouloir se positionner comme « mais moi je suis l'élu de tout le monde, donc je représente l'intérêt général alors que les forces associatives représentent des intérêts corporatistes ». C'est comme ça que c'est présenté. Et cette vision de l'intérêt général me paraît relativement fausse. L'intérêt général, il n'y a personne qui en est garant. L'intérêt général est le fruit de confrontations de forces. C'est un petit peu à la fois les forces sociales qui vont influer sur les élus et les jeux entre les différents élus qui vont permettre de dégager l'intérêt général.
Bruce. En quoi consiste-t-elle cette réforme et quels en sont les axes principaux ?
D'abord, il n'y a pas eu une loi sur la réforme des collectivités territoriales, mais il y a un ensemble de lois. Et toutes les lois ne sont pas passées. C'est-à-dire que, en fait, comment ça va se passer en 2014, pour l'instant, on ne le sait pas. Tout n'est pas bouclé. Il y a un certain nombre de choses qui sont décidées. Déjà, la date de 2014. En 2014, il n'y aura pas deux élections. Il va y avoir une seule élection et on va élire, cette fois, des conseillers territoriaux. Jusque-là, on n'a jamais élu de conseillers territoriaux. On élisait des conseillers régionaux ou on élisait des conseillers généraux. Cette fois, on va élire des conseillers territoriaux. Ces conseillers territoriaux siégeront à la fois au conseil régional et au conseil général. Premier changement, c'est que là où il y avait deux élus, il n'y en aura plus qu'un. Deuxième changement, ça va être au niveau de comment on va élire ces conseillers. Pour l'instant, pour élire ces conseillers, on avait le conseil général, on élisait une personne à deux tours, et il fallait, pour se présenter au deuxième tour, d'avoir 10% des voix au premier tour. Et on avait, pour élire les conseillers régionaux, un système qui était proportionnel de liste. C'est-à-dire, pour élire les représentants, nos représentants à la région, on n'élisait pas une personne, un homme ou une femme, on élisait une liste de personnes, et selon le pourcentage que chaque liste avait fait, il y avait un pourcentage de conseillers régionaux. C'est-à-dire, on avait un système proportionnel. Avec le nouveau système, ce qui est prévu, c'est que on choisira avec le système uninominal. C'est-à-dire qu'on ne votera plus pour une liste, mais on votera uniquement pour une personne. Tout n'est pas joué là-dessus. Parmi les éléments qui sont en discussion, troisième aspect de cette réforme, ça va être au niveau des compétences. Avec les lois de 82-83, les lois de fer, le département, je l'ai dit tout à l'heure, son action prioritaire, c'était le social. Et la région, son action prioritaire, c'était la planification et le développement économique. Mais dans les lois de décentralisation, les mairies, le conseil général, le conseil régional avaient ce qu'on appelait la clause générale de compétence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le conseil général a pour compétence l'action sociale. Mais si le conseil régional se disait à tel endroit par rapport à l'action sociale, ça vaudrait le coup de donner un coup de pouce au conseil général, il avait le droit de le faire et il décidait sur son budget d'accompagner ça. Si vous êtes dans des associations, vous apercevrez que presque toutes les associations, pour fonctionner, vont faire appel à la fois au maire, à la fois au conseil général, à la fois au conseil régional. Et ça, c'est un gage de démocratie. Pourquoi ? Si dans votre commune, vous faites quelque chose de bien, mais que le maire ne soit pas d'accord avec vous et qu'il pense que vous lui fassiez de l'ombre, eh bien, il ne vous donnera pas de subvention en disant « on réglera ça aux élections ». Mais si ce que vous faites de bien est reconnu par le conseil régional ou le conseil général, vous pouvez obtenir ce type de financement. La clause générale de compétence qui disparaît fait en sorte que les subventions qui permettent à la vie sportive, à la vie culturelle, à l'éducation, à tout ça, de vivre, sont bien plus tributaires d'un seul groupe d'élus. Si on n'a qu'une instance sur deux, si c'est les mêmes élus au conseil général et au conseil régional, on aura une chance de moins de pouvoir obtenir quelque chose si on n'est pas dans la ligne politique majoritaire, quoi. Le quatrième point, c'est qu'au niveau de l'intercommunalité, les communes pratiquement sont toutes regroupées selon la taille des communes. Ça s'appelle communauté de communes, ça s'appelle communauté d'agglomération ou ça s'appelle communauté urbaine. La communauté urbaine, c'est pour les plus grandes, la communauté de communes, c'est pour les plus petites. Actuellement, l'intercommunalité a un poids très très important. Sur l'agglomération d'Arras, 70% de la part des choses qui se font passent par l'intercommunalité. C'est les poubelles, c'est... Et jusque-là, les citoyens n'ont rien à dire sur l'intercommunalité, puisque c'est d'une manière très indirecte qu'ils sont représentés, c'est les communes qui désignent qui c'est qu'ils vont envoyer à l'intercommunalité. La loi prévoit qu'au moment des élections municipales, ceux qui iront à l'intercommunalité soient identifiés sur les listes. C'est-à-dire, quand on voterait, on continuerait de voter de la même manière, on ne voterait pas pour l'intercommunalité, mais on saurait que, dans la liste, ça sera telle ou telle personne qui nous représentera à l'intercommunalité. Donc ça, c'est un changement. Et puis, le cinquième changement, c'est, on pourrait dire, la mort des pays. Alors, je vais expliquer, parce que ça se peut que le truc soit mort avant même que la majorité des personnes aient réussi à savoir que ça existait. Les pays, c'est une autre manière de penser le politique et l'organisation du territoire qui a été mis en place par Dominique Voynet quand elle était au gouvernement. L'intercommunalité globale telle que c'est et la vision de la démocratie qu'on a depuis 1789. C'est une vision de la démocratie qui consiste à dire chaque citoyen élit des représentants et une fois qu'il a élu ses représentants, il s'est dépossédé de son pouvoir de citoyen auprès d'un représentant qui va conduire la politique à sa place. C'est cette vision de la démocratie par délégation. La loi sur les pays, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait pour construire le pays, il n'y a pas que les forces élues. Et ce qui fait la vie de la nation, c'est l'ensemble des forces sociales. Et l'idée du pays, c'était que des communes se regroupent parce qu'elles le veulent et qu'elles se mettent d'accord sur un projet de territoire. Donc on n'est plus sur « on délègue à des élus », mais cette fois, on a un projet commun. Autre chose de la loi sur les pays, c'est que comment qu'on va élaborer ce projet commun, l'accompagner et le faire vivre, ça ne se joue pas uniquement entre élus, mais ça se joue avec des élus et des représentants à la fois des forces économiques, des patrons, des entreprises, et à la fois des forces sociales, des associations, et c'était comme ça que, sur un certain nombre d'endroits, des gens se sont organisés pour essayer de faire vivre une démocratie directe. Alors ça, c'est éliminé du projet de loi. Cette tentative de dépasser une démocratie uniquement en refilant son pouvoir à un élu et en ayant le droit de fermer sa gueule entre les élections, qui avait été une tentative de passer à une démocratie plus directe, est remis en cause par cette loi.
Dernière partie de notre entretien avec Paul Masson, formateur d'adultes, militant de l'éducation populaire. Il est aussi membre d'Attaque et de Culture et Liberté. Et on l'écoute à propos de la réforme des collectivités territoriales.
On va avoir la disparition des scrutins de liste proportionnels, c'est-à-dire permettre à ce que toutes les couleurs politiques puissent être représentées au profit d'un système majoritaire. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui a tendance à concentrer les pouvoirs entre les mains, on peut dire, des notables politiques. Qui c'est qui va gagner les élections? Ça va être, en gros, les installés. C'est-à-dire, ça se jouera entre les deux grands partis. Cette réforme a plutôt tendance à renforcer les notables et les partis installés. L'autre aspect de cette réforme, relié en plus à la réforme de la fiscalité locale, ça va être le rôle des élus qui devient de moins en moins politique. La clause générale de compétence qui disparaît, l'élu n'a plus la possibilité d'accompagner quelque chose qui politiquement l'intéresse. L'élu devient de plus en plus un gestionnaire des finances publiques. Après, dans le rapport des forces entre l'État et les collectivités territoriales, c'est l'État qui s'en trouve renforcé.
Quelle est la cohérence de cette réforme avec d'autres politiques qui sont menées? En gros, pourquoi cette réforme maintenant?
Ça me paraît une question centrale. On regarde historiquement et on s'aperçoit que repenser les territoires, en fait, dans l'histoire de la nation, c'est vraiment à des moments clés. Comment ça se fait que maintenant, on a cette réforme-là? Qui ne nous est pas présentée comme une réforme clé, La réforme des lois de fer avait été présentée comme une réforme clé.
Ouais, c'est présenté sous l'argument démographique, c'est-à-dire les territoires changent, donc on doit...
Voilà, on doit s'adapter. Et c'est présenté, le deuxième argumentaire, c'est de dire les élus nous coûtent cher, on en mettra moins, ça nous coûtera moins cher. Ça, c'est le discours. Mais si on essaye de regarder d'un peu plus près, cette réforme des collectivités territoriales, elle se fait en même temps que se fait la réforme de la refonte de la fiscalité locale avec la disparition de la taxe professionnelle. C'est-à-dire que ces deux réformes, de fait, fragilisent les collectivités locales et leur enlèvent des moyens d'agir. C'est-à-dire que, en fait, ces deux réformes donnent moins de pouvoir aux élus, font en sorte que les élus ne puissent pas disposer de moyens pour conduire une politique. Cette réforme-là, à l'échelle de l'État, il y a un certain nombre d'années qu'elle a été mise en place. C'est ce qu'on appelle la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques. C'est une réforme de fond de l'État qui a pour but de faire en sorte que les ministères aient de moins en moins de moyens. On diminue les impôts, on ne renouvelle pas un fonctionnaire sur deux. C'est-à-dire que les deux réformes au niveau des collectivités territoriales, les réformes au niveau des collectivités territoriales rejoignent les réformes qui ont lieu au niveau de l'État, qui ont pour but de faire en sorte que les élus aient de moins en moins de moyens pour conduire leur politique. C'est-à-dire que le marché reste libre. S'il n'y a plus de politique publique, eh ben, il y a une sorte de vide qui va pouvoir être pris par le marché. Une autre réforme qui est passée et qui va dans le même sens, c'est la réforme du code des marchés publics. On voit la logique. Faisons en sorte que les politiques ne conduisent plus les actions en fonction des choix politiques de société qu'ils veulent mettre en place, et faisons en sorte que le marché soit libre de pouvoir se l'approprier. C'est cette logique-là qui apparaît à travers ce type de réforme. À travers d'autres réformes aussi, dont on a parlé dernièrement, la réforme des retraites. Si on veut que les personnes placent de l'argent pour leur vieux jour dans des assurances, eh ben, il ne faut pas qu'ils aient de retraite. Le déremboursement de la sécurité sociale, si on veut que les gens placent de l'argent dans les assurances, eh ben, il ne faut pas qu'on ait un système de sécurité sociale. Et vous avez entendu dernièrement le président nous parler pour le quatrième âge, pour les personnes très très âgées, disant eh ben, on ne pourra pas se passer du marché des assurances par rapport à ça. C'est-à-dire que derrière toutes ces réformes, c'est une même logique. Et cette même logique, elle est pensée à l'échelle européenne. C'est ce qu'on appelle la stratégie de Lisbonne, qui a pour but d'ouvrir l'intégralité des services publics, de la santé, de la culture, du social, au marché, tant au niveau local qu'au niveau national. Cette réforme des collectivités territoriales et l'ensemble des réformes que Sarkozy a poussées plus loin que ne l'avaient fait jusque-là les gouvernements précédents, elle est pensée selon une approche de la société, de l'organisation sociale, où le choix de société a été fait une fois pour toutes, c'est le marché et c'est la libre circulation dans un marché de transnational qui conduit la politique et les élus ne choisissent plus la ligne politique, ils sont gestionnaires. Les forces sociales qui sont derrière, c'est les forces des transnationales qui entendent s'installer un peu de partout dans le monde. Les politiciens sont au service, sont là pour leur organiser le marché. De la même manière qu'en 1789, l'organisation du territoire faisait en sorte que ce soit la République qui commande. Maintenant, ça va être pour que les marchés commandent. De la même manière que sous l'Ancien Régime, l'organisation du territoire était pensée pour que les seigneurs s'installent.
Paul Masson, formateur d'adultes, membre d'Attaque et de Culture et Liberté, il était au micro de Radio PFM. Les cantonales, si peu médiatisées, on va en parler sur cette fréquence associative libre et sans pub pendant les semaines à venir. Ça sera dans ce magazine Info 30 à 7h30, 12h30 et 18h. Vous entendrez tous les candidats dans les cantons d'Arras-Ouest, Arras-Nord, Arras-Sud, Beaumais-les-Loges et Dainville à raison de 2 par émission chaque jour. Et tous les candidats seront interviewés avec le même temps de parole. On mettra tout cela aussi sur des pages internet sur le site www.radiopfm.com. On a street.